Bonjour, comment ça va?
Moi, je vais bien. Nous sommes arrivés au cours 7. Bravo. C'est le temps de parler de choses culturelles, de la musique, de la littérature, de l'art, du cinéma. Vous avez entendu Antoine, un chanteur français populaire dans les années 60-70. Il représente la musique pop comme Johnny Hallyday et Sylvie Vartan. Les vedettes de musique pop sont éphémères et viennent et disparaissent tout le temps. Il y en a d'autres qui sont plus permanentes, comme Édith Piaf, Mireille Mathieu et Patricia Cass, peut-être. Édith Piaf et Mireille Mathieu sont considérées comme interprètes de chansons, sortes de couplets qui racontent une histoire, très souvent une histoire d'amour. La musique des jeunes d'aujourd'hui, c'est plutôt du rock, du rap, de la techno et d'autres genres de musique internationale. La musique rap, par exemple, a subi une influence ethnique. C'est la musique des jeunes des banlieues françaises. Jean-Michel Jarre est un spécialiste de musique moderne. Il a su combiner sa musique très électrique avec des effets spéciaux pour créer des spectacles magnifiques connus dans le monde entier. Mais il ne faut pas oublier la musique classique, dont les compositeurs les plus célèbres sont Camille Saint-Saëns, Claude Debussy, Maurice Ravel et Georges Bizet. Est-ce que vous connaissez ces compositeurs? Lequel préférez-vous? Est-ce que vous connaissez quelques-unes de leurs œuvres? Et vous, qu'est-ce que vous voudriez dire aux étrangers sur la musique finlandaise?
En France, la littérature a une position très importante, aussi à l'école. Les élèves doivent connaître la littérature nationale et rédiger des essais et participer à des débats. Les cours de langue maternelle se concentrent sur les analyses de textes et de vers. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à la littérature? Il y a plusieurs raisons. Pour quelques-uns, la lecture permet de s'évader de la vie quotidienne. Les autres veulent se cultiver, découvrir d'autres mœurs et d'autres sociétés.
Est-ce que vous connaissez les genres littéraires? Il y a des romans, polars, science-fiction, de la poésie, du théâtre, des essais, des nouvelles et des bandes dessinées. Et maintenant, nos questions pour les champions. Qui a écrit Les Misérables? Victor Hugo. Et l'auteur du Petit Prince, c'est qui? Antoine de Saint-Exupéry. Qui est l'écrivain des romans L'étranger et la peste? Albert Camus. Vous avez certainement lu Les Trois Mousquetaires, mais est-ce que vous vous rappelez le nom de l'écrivain? C'est Alexandre Dumas. Maintenant un poète. Qui a écrit Les Fleurs du Mal? Charles Baudelaire. Bon, vous avez certainement trouvé la plupart des noms des écrivains. Quel auteur préférez-vous et quel genre littéraire? Vous achetez vos livres dans une librairie ou est-ce que vous préférez les livres d'occasion qu'on trouve par exemple chez les bouquinistes? Vous pouvez aussi les emprunter à la bibliothèque. En choisissant un livre, qu'est-ce que vous regardez? Le titre, la couverture ou le nom de l'auteur? Quelques-uns veulent feuilleter le livre avant de l'acheter, pour apprendre quelque chose sur le langage, le style ou les personnages du livre.
Moi, quand j'ai un polar, je le dévore tout de suite. Mais quand je lis par exemple un roman de Marguerite Duras, je m'identifie au personnage principal. Lire par plaisir, c'est toujours agréable, mais quelquefois il faut lire par obligation, pour les examens par exemple. Écoutons ce que Zoé, une jeune Française qui vit en Finlande, aime lire.
Est-ce que vous lisez beaucoup?
J'aime beaucoup lire, c'est un passe-temps très agréable.
Et comment choisissez-vous les livres que vous lisez?
Un petit peu par hasard. Je vais dans une librairie, généralement en France, quand j'ai l'occasion de retourner en France, et j'attrape tout ce qui me passe sous la main, qui semble un petit peu sortir de l'ordinaire, rigolo. Pas beaucoup des choses qui font peur. Je n'aime pas bien l'épouvante, c'est pas tellement mon style. Plus le roman historique concernant l'Égypte. J'aime beaucoup tout ce qui est autour de l'Égypte. Et dernièrement, j'ai lu un livre qui concernait Hatshepsut, qui est la seule femme qui était pharaon. C'était très 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 intéressant. Et puis sinon, les grands classiques, mais Balzac étant mon préféré peut-être, mais je ne sais pas.
Mais il ne faut pas oublier les bandes dessinées ou les BD, que l'on appelle le 9e art. C'est un genre de littérature très apprécié en France. Les BD ont leur propre festival et musée en France. Il y a des milliers d'amateurs qui se rencontrent régulièrement dans la ville d'Angoulême. Vous aussi, vous connaissez certainement les héros Astérix et Obélix, et Tintin qui est d'origine belge. Il y a tout un marché de produits autour des BD. Quels produits avez-vous vus ?
En fait, moi j'ai acheté des serviettes Tintin, mais j'ai vu aussi des porte-clés, des tasses, des t-shirts et des stylos. Des cahiers et n'importe quoi. Dans les alentours de Paris, il y a même le parc Astérix, mais je ne l'ai pas visité.
Tout près du parc Astérix se trouve la maison de Claude Monet, qui était un grand peintre impressionniste. À vrai dire, son tableau datant de l'an 1874, qui s'appelle « L'impression soleil levant », a donné le nom au courant artistique « impressionnisme ». Les peintres de ce style voulaient exprimer le jeu de la lumière sur les paysages et sur les objets par les impressions momentanées. D'autres peintres impressionnistes sont Édouard Manet, Edgar Degas et Auguste Renoir. À cette époque-là, l'impressionnisme s'est répandu partout en Europe, car Paris était le centre culturel où même beaucoup d'artistes finlandais sont allés étudier. Parmi eux, on peut citer Akseli Gallen-Kallela, Eero Järnefelt, Hélène Scherbeck et Albert Edelfelt, dont les œuvres Le Jardin du Luxembourg et le portrait de Louis Pasteur sont les plus connus. Comme Paris continuait à attirer des artistes, il y a eu d'autres mouvements qui y sont nés plus tard, comme par exemple le fauvisme, le cubisme et le surréalisme.
Le genre artistique bien aimé des Français est le cinéma. Le cinéma vient de fêter ses 100 ans. Les premiers films ont été présentés en 1895 par les frères Lumière, Louis et Auguste. Il s'agissait de documentaires de 2 minutes. Les films s'appelaient « L'arrivée du train à la gare » et « La sortie des usines ». Les intellectuels de l'époque ne s'intéressaient pas à ces films réalistes et quotidiens. Seulement quelques revues scientifiques ont noté la première projection. Mais aujourd'hui, tout a changé. La France est pleine de cinéphiles et il y a même des queues devant les salles de cinéma quand il y a la première d'un nouveau film, et surtout si le film a gagné un prix au Festival de Cannes. Ce festival existe depuis 1946 et attire chaque printemps des milliers de cinéphiles et de cinéastes. On y distribue plusieurs prix différents, notamment pour la mise en scène, le montage, le scénario, le son et la musique. Un prix est aussi décerné pour la meilleure interprétation. Si on a de la chance, on peut tomber sur une vedette dans les rues de Cannes, comme par exemple Catherine Deneuve, Alain Delon ou Gérard Depardieu.
Qu'est-ce que vous aimez comme film ? Les films policiers, les films d'aventure ou les westerns? Ou est-ce que vous préférez les histoires d'amour ou les films d'épouvante? Moi, j'aime surtout les films documentaires. Et il y en a beaucoup à la télé et je peux les regarder tranquillement chez moi. Demandons ce que les autres regardent.
Quel genre de films regardez-vous?
Alors, les films que je regarde, c'est très varié parce que c'est plutôt en rapport avec les acteurs et les actrices. Ce peut être des films policiers, des films comiques, mais c'est toujours en rapport avec les personnages. Parce que quelquefois, l'histoire, elle peut être bien, mais si elle est mal jouée, pour moi, ça n'a pas de rapport. C'est plutôt technique. J'aime beaucoup le côté technique parce que l'histoire, elle est toujours bien. L'histoire Lodrose, je ne suis pas très pour. Les histoires policières, bon, ça se termine toujours avec une bonne moralité, alors que dans la vie, ce n'est pas toujours comme ça. C'est plutôt le côté de la manière dont ça a été tourné. Voilà.
Quel est le meilleur film que vous avez vu?
Ouh là là, alors le meilleur film, je ne sais pas. Il y a plusieurs films. Il y a un film qui m'a beaucoup marqué, c'était Out of Africa, avec Robert Redford et Meryl Streep. Et ce sont deux acteurs et actrices que j'aime beaucoup par leur simplicité. Et ce film relate l'histoire, l'époque coloniale en Afrique. Donc il y a une histoire d'amour, mais il y a aussi l'histoire occupée par les Anglais. Mais les paysages, en plus, les paysages sont magnifiques et c'est un tout, voilà. Je crois que c'est un des films qui m'a beaucoup marqué.
Pour notre interviewé, les acteurs jouent un rôle important. Mais il ne faut pas oublier le rôle des réalisateurs. Parmi les réalisateurs français, il faut citer surtout François Truffaut et Jean-Luc Godard. Ils étaient les pionniers de la nouvelle vague, dont les films ne suivent pas nécessairement l'ordre chronologique des événements. Comme dans la plupart des pays d'Europe, les films en France sont doublés. C'est seulement dans quelques salles de cinéma à Paris que l'on peut voir la version originale. La version originale des films passe aussi à la télévision sur les chaînes France 3, Arte et Canal+. Sur les autres chaînes, les films sont doublés. En France, il y a plusieurs chaînes et les Français aiment regarder la télé, selon les statistiques, environ 4 heures par jour. Écoutez ce que Nathalie dit de la télévision française et comparez la situation avec celle de votre pays.
Combien de chaînes y a-t-il à la télévision française ?
Alors, nous avons 5 chaînes, c'est-à-dire la première, la deuxième, la troisième, la cinquième et la sixième. Donc, à savoir que nous avons une quatrième chaîne, c'est Canal+, mais Canal+, c'est une chaîne privée, il faut être abonné. Puis nous avons Canal Satellite, hein, comme beaucoup, nous pouvons avoir 35, 40 chaînes, mais sans abonnement, automatiquement, dans les foyers, nous avons 5 chaînes. 5 chaînes, donc la 1 qui s'appelle TF1, la 2, France 2, la 3, France 3. Donc France 2 et France 3, elles sont jumelées. France 3, c'est un petit peu la petite sœur de France 2. France 3 diffuse beaucoup au niveau régional. Ce sont des actualités régionales. Et ces deux chaînes, ce sont des chaînes public, à savoir que chaque année, nous payons une redevance télévision et cette redevance, elle est pour payer France 2 et France 3. TF1, donc, est une chaîne privée. Arte, la 5, qui est aussi jumelée avec l'Allemagne. C'est un petit peu une chaîne franco-allemande. Et puis la 6. La 6 aussi qui est une chaîne privée. Alors ces trois chaînes, elles diffusent énormément de publicité et c'est un petit peu comme cela qu'elles fonctionnent. C'est grâce à cette publicité et ce sont sur ces trois chaînes que la publicité a le droit d'être diffusée au milieu d'un programme ou d'une émission de télévision ou d'un film. Alors que France 2, France 3 qui sont des chaînes public, où nous payons une redevance, la publicité paraît avant le film ou l'émission ou après, mais n'a pas le droit d'être diffusée pendant. Nous avons beaucoup de feuilletons américains, de films américains, de westerns, les policiers, et, bon, les États-Unis priment beaucoup dans les programmes de télévision. Quelques chaînes se partagent, enfin France 2 ou France 3 se partagent les actualités sportives lorsqu'il y a des compétitions importantes. Bon, le dimanche soir, nous avons deux films qui sont diffusés sur TF1, c'est-à-dire qu'à 20h55, nous avons un premier film et vers les 23h, un second film. Bon, France 2, qui est une chaîne publique, diffuse également deux films et généralement ce sont toujours des films de même notoriété, de même valeur. Au niveau des émissions de variété, c'est exactement la même chose. Alors c'est vrai que chez nous, il y a cette rivalité entre les chaînes publiques et les chaînes privées. au niveau variété, beaucoup de variétés, et puis aussi beaucoup de jeux, beaucoup de jeux. Alors ça, c'est atroce, pour moi personnellement, parce que là, on fait croire à beaucoup de gens que l'on peut gagner de l'argent gratuitement, comme ça. Et ça, toutes les chaînes diffusent des jeux.
Bon, alors trop de jeux pour Nathalie. Ça se comprend, elle est très prise par son travail. Il y a sans doute quand même un programme qu'elle essaie de regarder chaque jour. Lequel ? Si elle a plus de temps, qu'est-ce qu'elle regarde aussi ?
Je n'ai pas tellement le temps de regarder la télévision, je ne suis pas très télévision, mais il faut quand même que je m'informe. J'essaie de regarder une fois par jour les informations. Alors, je n'ai pas d'a priori pour France 2, TF1, que ce soit les chaînes publiques ou les chaînes privées, parce que de toute façon, elles diffusent les mêmes choses. Même si nous avons la liberté d'expression, elles sont quand même toujours contrôlées avant parution par un membre du gouvernement, et les messages sont les mêmes. Hein. Dit d'une manière différente, mais c'est toujours la même chose. Donc, j'essaie de regarder une fois par jour les informations. Et les émissions qui m'intéressent le plus, c'est par rapport à la médecine et puis par rapport aussi à une connaissance générale. Mais ces émissions-là ne sont diffusées que très tard, le soir, pas avant 22h30, 23h. Alors, il m'arrive souvent de l'enregistrer. Et puis alors le dimanche matin, en prenant mon thé, là je regarde l'émission. Donc je suis plutôt intéressée par les émissions culturelles, les émissions qui m'apportent quelque chose, qui me font connaître quelque chose. Donc bon, un film c'est bien, c'est divertissant, mais pour moi personnellement, lorsque je regarde la télévision, si je veux vraiment pouvoir suivre, il faut que je fasse autre chose. Donc je lis, je fais des mots croisés, je m'occupe, mais sinon je ne peux pas vraiment regarder un film sans m'endormir. Alors que les émissions culturelles, c'est ce que je regarde principalement.
Mais n'oublions pas la presse. La presse joue un rôle important dans la société française et presque chaque parti politique a son porte-parole. L'Humanité et Libération sont des journaux gauchistes et Le Figaro représente plutôt la droite. Il y a beaucoup de journaux régionaux comme Nice Matin et Ouest France. Le Monde, par contre, est mondialement connu et apprécié. Normalement, les Français ne prennent pas un abonnement à leurs journaux, mais ils les achètent dans les kiosques. Écoutez ce que Marie-Louise Pariset, du Cavilam, du Centre audiovisuel de langue moderne à Vichy, dit de la presse française et fait un résumé de 100 mots.
En France, comme dans la plupart des pays, on va distinguer en général, bien entendu, la presse quotidienne de la presse périodique, c'est-à-dire la presse quotidienne. On va bien entendu avoir des quotidiens nationaux, que l'on appelle également la presse parisienne. Et à côté de ces journaux, on va relever également tout ce que l'on entend par quotidiens régionaux, c'est-à-dire la presse qui est diffusée dans les différentes régions de France et qui sont propres à ces différentes régions. Quand on parle de la presse quotidienne, ce qu'il est intéressant de relever, c'est que parmi cette presse nationale, le journal qui arrive en tête du point de vue du nombre de lecteurs et de sa pénétration parmi les lecteurs, c'est l'Équipe, c'est-à-dire un journal exclusivement consacré au sport. Vient ensuite l'édition du Parisien qui s'appelle Aujourd'hui et qui, elle, est diffusée en France, dans le reste de la France et non pas seulement à Paris. Puis viendra Le Monde, en troisième position, Le Parisien en quatrième position, Le Figaro, Libération, et ensuite d'autres journaux qui ont une vente moins importante, comme Les Échos, France Soir, La Tribune, La Croix, qui est un journal catholique, et L'Humanité, qui est le journal du Parti communiste français. À côté de cette presse quotidienne nationale, ou presse parisienne, on va remarquer l'ensemble, donc, comme je l'ai dit antérieurement, des quotidiens régionaux. Le principal de ces quotidiens régionaux, c'est le groupe Ouest France et Ouest France, qui est diffusé qui est édité à Rennes, c'est-à-dire en Bretagne, et qui est édité à 792 000 à 800 000 exemplaires par jour. Vient ensuite La Voix du Nord, 372 000 exemplaires, puis le groupe France Centre, auquel appartient le journal local, c'est-à-dire La Montagne, puisque ici à Vichy, le journal régional est La Montagne, qui lui est édité à Clermont, mais qui compte plusieurs éditions. C'est-à-dire La Montagne va avoir une édition à Clermont-Ferrand, une autre à Vichy, une autre à Moulins, d'autres pour les autres villes de la région. Le journal se présente de la même façon pour les pages extérieures et certaines pages intérieures, mais la plupart des toutes premières pages de l'intérieur, c'est-à-dire les pages 2, 3, 4, voire 5, sont consacrées à la ville pour laquelle l'édition à laquelle l'édition est destinée. Et on va retrouver, donc par exemple pour Vichy, l'actualité de Vichy, les spectacles de Vichy, tout ce qui se passe à Vichy dans les environs, et également ce qui s'est passé dans les villages qui sont autour de Vichy ou les petites villes autour de Vichy. Donc ça, c'est la presse quotidienne. Et comme je l'ai dit précédemment également, à côté de cette presse quotidienne, on va avoir l'ensemble des magazines. Alors là, en ce qui concerne les magazines, on s'aperçoit que les magazines les plus lus sont en fait, il y a en fait 5 hebdomadaires qui sont les plus lus, et parmi ces 5 hebdomadaires, 4 d'entre eux sont des hebdomadaires consacrés à la télévision. Le premier étant TV Magazine, le second Télé 7 jours, le troisième est le seul magazine non consacré, disons, à la télévision. Il s'agit de Femmes Actuelles, qui est donc, comme son nom l'indique, un magazine féminin. Viennent ensuite les deux autres magazines de télévision, à savoir Télé Z et Télé Star. Ces 5 hebdomadaires sont donc très importants du point de vue de leur diffusion en France, mais ce qui est le plus important dans la presse magazine en France, c'est ceux qui sont les plus vendus, ce sont souvent des magazines mensuels ou bimestriels. Parmi les plus lus, on compte Télé 7 Jeux, qui est donc un magazine dans lequel il n'y a que des jeux, mots croisés, mots fléchés, énigmes, rébus, etc. Le second est un journal qui a énormément de succès en France, il s'agit de Géo, dont le numéro de ce mois est consacré à l'Auvergne. Puis vient ensuite Art et Décoration, donc une revue pour la maison essentiellement. Ensuite, Notre Temps, qui est un magazine consacré aux personnes, disons, au-dessus de 60 ans. Et enfin, un magazine féminin, le premier des magazines féminins le plus vendu, ce n'est pas Elle, ce n'est pas, par exemple, Marie-France, mais c'est Prima. Alors, à côté de cette presse, disons, que ce soit quotidienne ou hebdomadaire ou mensuelle, presse quotidienne ou presse magazine, il y a aussi un autre type de presse qui a son importance, c'est toute la presse enfantine. Et dans ce cas, ce qui est intéressant, c'est que depuis un certain temps, cette presse enfantine a évolué et elle a perdu près de la moitié de ses lecteurs. À savoir que avant il y avait toute une série de journaux comme Spirou, comme Pif Magazine, etc., qui existent toujours. Mais ils ont perdu des lecteurs, ceci à cause de la baisse de la natalité, mais aussi à cause de la concurrence de l'audiovisuel. Et enfin, pour une autre raison qui est assez amusante, c'est-à-dire que les parents cherchent de plus en plus à ce que leurs enfants lisent des journaux éducatifs. Et ils les abonnent à des journaux éducatifs où ils vont pouvoir apprendre des choses et qui vont venir compléter ce qu'ils apprennent en classe. Il existe également une autre presse maintenant qui se développe beaucoup, et c'est toute la presse que l'on appellera la presse des seniors. Non pas des vieux, je dis bien des seniors, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont à l'âge de la retraite et qui prennent leur retraite. Et en général, les lecteurs commencent à l'âge de 55-60 ans, Pourquoi? Parce que dans ces journaux, on leur donne des tas de conseils concernant la façon d'occuper leur retraite, les problèmes propres à la retraite, comment occuper son temps, les loisirs, les voyages, puisque ce sont des gens qui voyagent beaucoup et que actuellement, c'est un public qui est très courtisé dans la mesure où, bien sûr, ce sont des gens qui, bien qu'étant officiellement âgés, sur le papier, sont des gens qui restent la plupart du temps très jeunes, très actifs, qui voyagent beaucoup et qui, bien sûr, ont de l'argent. Donc, c'est vrai, on les courtise beaucoup et on recherche beaucoup cette clientèle, que ce soit la presse ou d'autres choses, les commerçants, etc. Alors, du point de vue maintenant de la lecture des journaux, ça, c'était ce que je viens de dire, c'était un petit panorama rapide des différents types de presse. Ce qu'il est intéressant de noter également, c'est que si on considère la lecture des quotidiens, elle diminue de plus en plus. Et elle a diminué, par exemple, beaucoup depuis les années 70. Et parmi ces journaux, ce sont les nationaux qui sont les plus touchés. Les gens, effectivement, les informations qui sont dans la presse nationale sont des informations qu'ils trouvent souvent sur les autres médias, la radio, la télévision, surtout la télévision. Et en fait, ils vont rechercher davantage des informations sur leur région. Et donc acheter des journaux régionaux pour savoir ce qui se passe dans leur ville ou dans leur région. Alors, les causes de cette désaffection des lecteurs sont peut-être la télévision, mais il semblerait que ce qui compte le plus aussi, c'est le prix élevé de ces journaux qui tournent en général autour de 7-8 francs. Quand on sait que certains livres, on peut trouver par exemple certains livres classiques dans des éditions très bon marché à 10 francs, donc un livre 10 francs et puis un journal quotidien 7 francs, par exemple. Le prix compte beaucoup et cela a eu pour conséquence également la disparition de certains titres, où d'autres titres sont en situation de danger. Ils ont vraiment des difficultés à survivre. C'est ainsi que, également, dans la catégorie des lecteurs de 15 à 24 ans, Le Monde a perdu 30% de ses lecteurs de 15 à 24 ans, Le Figaro à peu près 10%, Libération 9% dans les années précédentes. À côté de cela, L'Équipe a augmenté de 10%. Et aujourd'hui, la version, disons, province du Parisien a eu une augmentation de 43%. Par ailleurs, que peut-on dire encore de la lecture ? À peu près un Français sur deux donc lit un quotidien régional et les gens vont lire leurs journaux en moyenne à peu près 30 minutes par jour, c'est le temps qu'ils consacrent à la lecture d'un journal, c'est tout. Donc ce qui est assez peu, en moyenne, hein, j'insiste sur le fait qu'il s'agit de moyenne. Par contre, si on s'occupe toujours de cet aspect de lectorat, la vente des magazines, elle, est toujours très soutenue. Et la France est le pays au monde où il y a le plus de magazines édités, selon les thèmes, et également le pays où il y a un plus fort lectorat, puisque l'on considère que 95% au moins des Français sont abonnés ou lisent régulièrement au moins un magazine. Et il y a des familles dans lesquelles la mère a son abonnement, le père a un ou deux abonnements, chaque enfant a le sien, et on peut avoir des familles où il y a 4, 5, 6 magazines qui arrivent toutes les semaines ou au moins une fois par mois. Voilà un petit panorama, disons, très 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 rapide et très lacunaire sans doute, sur la presse française, mais qui donne une petite aperçu de ce que sont les journaux et de ce que les Français lisent.